France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Michel Platini, Sepp Blatter, guerre à la FIFA. Grand favori dans la course à la succession de Sepp Blatter, le président démissionnaire de la FIFA en 2015, l'ancienne gloire des Bleus, Michel Platini, va voir son ambition s'effondrer. En cause, un versement de 2 millions de francs suisses sans contrat ni raison apparente. Si les deux hommes affirment qu'il s'agit du règlement d'un arriéré de salaire d'une époque lointaine, l'affaire semble suffisante pour alerter les responsables d'une FIFA déjà secouée par d'importants scandales de corruption. Cette affaire est retentissante, car elle concerne le plus grand joueur de l'histoire du foot français, une merveille de joueur, titulaire de 3 ballons d'or, quand Zidane n'en a qu'un et Mbappé aucun. Et puis c'est une histoire de rupture. Alors que Blatter et lui se sont longtemps aidés dans leur ascension mutuelle, leurs chemins vont peu à peu s'éloigner jusqu'à l'affrontement. Notre invité aujourd'hui, Jean-Philippe Leclerc. Journaliste, il est un fin connaisseur de la carrière et de la vie de Michel Platini, dont il a écrit une biographie. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Gaspard Valu, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation David Leprince.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Il y a foule ce mardi 25 mars 2025 devant le tribunal de Muttenz en Suisse. Le parvis du palais de justice de la paisible petite bourgade située à quelques kilomètres de Bâle est aujourd'hui envahi de journalistes. Tous sont venus assister à l'annonce du jugement qui clôt une affaire qui a fait couler déjà beaucoup d'encre. Dans la salle d'audience, deux hommes dont les destins sont liés depuis des décennies. Ils attendent la décision finale qu'une cour d'appel extraordinaire s'apprête à rendre concernant deux hommes qui ont régné sur le football mondial durant des années, Michel Platini et Sepp Blatter.
Michel Platini, l'ancien numéro 10 de l'équipe de France de football, ancien patron du foot européen, était accusé, tout comme l'ancien patron de la FIFA, Sepp Blatter, d'escroquerie. Michel Platini, accusé d'avoir obtenu illégalement, au détriment de la FIFA, un paiement de 2 millions de francs suisses. Eh bien, ce matin, les deux hommes, après 10 ans de procédure, ont été à nouveau acquittés en appel. L'affaire avait brisé la carrière, on s'en souvient, dans les instances internationales de Michel Platini, qui a réagi ce matin à sa sortie du tribunal.
J'ai retrouvé mon honneur. Je peux être plus tranquille maintenant. Aujourd'hui, je ne suis pas soulagé, je suis content parce que c'est une affaire qui est terminée, on va pouvoir passer à autre chose.
Cette nouvelle relaxe en appel met un point final à un interminable feuilleton judiciaire débuté près de 10 ans plus tôt. Une affaire de politique football qui a mis un terme aux carrières des deux hommes qui, après avoir cheminé ensemble, deviennent rivaux pour le contrôle de la toute-puissante Fédération internationale de football, la FIFA. Aux caisses très remplies.
Beaucoup de vert, beaucoup de blanc, finalement Nogues et Platini. Oh, but de Michel Platini. But de Michel Platini.
Allez Michel. Voilà. Oui Michel.
Oui, oui Michel. Oui Michel. Et le voilà. Un coup franc magnifique.
C'est une lucarne de Michel Platini.
Tigana bien lancé, Platini, c'est pas fini. Tigana à nouveau qui va pouvoir frapper. Tigana qui remet en entrée pour Platini. Et but de Platini. 3-2
Extraordinaire.
Quelle émotion. On n'a jamais vu ça.
Lorsqu'il prend sa retraite de footballeur à la fin de la saison 87, Michel Platini a 31 ans. La petite mort des sportifs n'en est pas une pour celui qui est alors une légende vivante du football mondial. Triple lauréat du Ballon d'Or, 83, 84, 85, comme le grand Johan Cruyff qu'il admirait. Il sait que les opportunités sont nombreuses pour ne pas s'ennuyer dans sa nouvelle vie. Comme beaucoup d'anciens joueurs, l'ancien numéro 10 de la grande Juventus de Turin, la Juve, et son maillot mythique noir et blanc, embrasse d'abord une carrière d'entraîneur, comme une évidence. Moins d'un an après l'annonce de sa retraite, la Fédération française de football lui propose le poste de sélectionneur d'une équipe nationale qui vient d'essuyer de nombreux revers. Pas facile de succéder à des Platini, Giresse, Tigana et consorts, il est vrai. Une mission, en tout cas, à la hauteur de celui grâce à qui, et en grande partie, la France, lilliputienne du football international depuis 1958, remporte l'Euro 84. On doit une fière chandelle à ces bleus-là. J'insiste sur ce point, car il est capital. Cette équipe, sous la houlette de Platini, a montré que la France pouvait gagner au plus haut niveau. Une première brèche avait été creusée par la AS Saint-Étienne 8 ans auparavant. Les Stéphanois étaient arrivés jusqu'en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Et de fil en aiguille, la France est montée sur le toit du monde. Aujourd'hui encore, au moment où nous parlons, elle est avec l'Argentine et l'Espagne, l'une des 3 meilleures équipes de la planète.
C'est fini. La Suède a gagné. La Suède est qualifiée. La France est éliminée.
Bon, l'Euro des Français entraîné par Platini en 92, ça n'a pas été très brillant. Les Bleus ne remportent aucun match et sont éliminés dès le premier tour. Mais un entraîneur fait avec ce qu'il a sous la main. Et la génération des Ginola et des Cantona ne laissera pas un grand souvenir. Le 2 juillet 92, Platini prend acte et se retire. Mais cette annonce est vite occultée par un autre événement marquant pour le football français.
France Inter.
C'est fait donc, c'est la France qui a été choisie il y a quelques minutes pour organiser la Coupe du Monde de football en 1998. La France qui finalement a été préférée au Maroc par la Fédération Internationale. Ce n'était pas gagné, même si le dossier technique du comité français était en béton. Le Mondial 98 chez nous pour sa 16e édition, le dernier mondial du 20e siècle et le deuxième organisé par la France à 50 ans d'intervalle. On rejoint tout de suite à Zurich nos envoyés spéciaux Alain Gastal et Fabrice Drouel qui ont assisté ce matin au vote de la Fédération Internationale. Si j'ai bien compris, il y a eu du suspense jusqu'au bout.
Il y a eu du suspense jusqu'au bout, oui, bien sûr, puisque les Marocains y croyaient jusqu'à 12h32. 12h32, c'est l'heure à laquelle tout le monde est sorti de ce conclave. C'est finalement le président Fernand Sastre, le patron du comité de candidature, qui a annoncé la bonne nouvelle. 12 voix pour la France contre 7 pour le Maroc.
C'est donc la France qui organisera le Mondial de football 1998. C'est une victoire pour l'ancien sélectionneur des Bleus qui s'est personnellement impliqué dans l'intense campagne menée par le camp français aux dépens donc du Maroc. Platini étant une icône dans le monde entier, de nombreux responsables français, dont le président Mitterrand en personne, poussent pour qu'il soit nommé coprésident du comité d'organisation. Jamais rassasié de challenge, Platini accepte de former un binôme avec Fernand Sastre, l'ancien président de la Fédération française de football. Chargé des questions de communication durant 6 ans et de l'aveu de tous ses proches, il navigue avec aisance entre les plus hautes sphères du ballon rond et les responsables politiques français et étrangers. L'ancien numéro 10 semble prendre goût à cette politique du foot. Avec son binôme, il parvient à mener à bien sa mission. Et en janvier 98, quelques mois seulement avant le début du mondial, certains lui imaginent déjà un destin dans les plus hautes instances du football. C'est en tout cas l'idée de Joseph Blatter. Secrétaire général de la FIFA, Joseph dit Sepp Blatter est le numéro 2 et fidèle bras droit du président Jean Avalanche. Ce Suisse de 61 ans, qui a gravi tous les échelons, rêve de conquérir la présidence que son mentor s'apprête à lâcher après 24 ans d'un règne sans partage. En janvier 98, il fait une proposition audacieuse à Michel Platini. Un échange dont se souvient l'intéressé dans son autobiographie intitulée « Entre nous ».
Michel, assieds-toi s'il te plaît. J'ai une annonce à te faire. Le président Avalanche trouverait très élégant que nous formions un ticket gagnant pour les prochaines élections de la FIFA. Toi comme président, moi comme secrétaire général.
Je suis sur le cul. Je m'attendais à tout, mais surtout pas à ça. J'ai une Coupe du Monde à préparer. Et pour moi, la FIFA est un monde inconnu. Sepp, c'est peut-être élégant cette idée. Mais je ne peux pas. Tu le sais bien.
Bon, dans ce cas, je me présente seul. Mais j'ai besoin de toi, Michel.
Habile et manipulateur, Blatter, en réalité, n'a pas forcément envie d'un ticket avec Platini. Non, ce qu'il veut vraiment, c'est son soutien. Il sait qu'il en a besoin, parce que malgré son poste stratégique, la course à la présidence de la FIFA est loin d'être gagnée. Pour l'heure, l'unique candidat déclaré est le Suédois Lennart Johansson. Le président sortant, qui est qualité, dispose de moyens colossaux et du soutien de figures de poids, comme le Brésilien Pelé. Espérer le battre relève alors du mirage. Oui, mais voilà, c'est sans compter sur les qualités politiques de Blatter. secrétaire général de la FIFA depuis près de 17 ans, il connaît parfaitement les rouages et les mécanismes de cette institution très opaque. Il met alors en place une stratégie: convaincre les fédérations délaissées par les puissances de l'Europe de l'Ouest. Parce que Blatter n'a pas oublié une donnée essentielle. Les voix de l'Indonésie ou de Cuba valent autant que celles de la France, de l'Allemagne ou de l'Italie. Charmeur et affable, il met à profit ses nombreuses amitiés nouées au fil de ses années d'expérience. Blatter entre officiellement en campagne en mars 1998, trois mois avant l'élection. Le slogan imaginé par Michel Platini, le football pour tous, tous pour le football. Une formule qui doit incarner la promesse d'un développement du foot au niveau mondial, mais plus encore. Un engagement qui prend aussi la forme d'un programme baptisé Goal, qui devrait permettre de distribuer les subventions aux fédérations des pays en voie de développement. Alors même qu'il est dans la dernière ligne droite pour l'organisation du mondial, Michel Platini s'investit pleinement dans la campagne de Sepp Blatter. L'ancien numéro 10 des Bleus mouille le maillot et parvient même à convaincre l'influente fédération de changer son vote en faveur de son candidat. Un travail acharné qui finit par payer. Le 8 juin 1998, et alors que personne ne l'avait vu venir, Sepp Blatter est élu avec 111 voix contre 80 pour son rival. Une victoire historique qui marque un tournant pour la FIFA. Une victoire également pour Michel Platini, qui quelques semaines plus tard, le 12 juillet 1998, voit la France gagner la Coupe du Monde.
C'est fini, Thierry.
Et c'est fini ! L'équipe de France est championne du monde ! Vous le croyez ça ? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, deux buts de Zidane, un but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied ! Ah, quel pied ! Oh, putain ! Oh là là là. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire Platini-Blatter.
Affaires Sensibles.
Joseph Blatter, le chantre de l'Union du football, est donc élu. Et ses premiers mots sont pour remercier son premier supporter.
C'est Michel Platini qui s'est joint à moi et qui a joué un rôle prépondérant.
Je veux apporter ma collaboration et toute mon aide à 300 millions de footballeurs.
Fabrice Drouel.
L'élection de Sepp Blatter à la tête de la FIFA ne marque pas la fin de la collaboration avec Michel Platini. Bien au contraire. C'est qu'il a pris goût à la politique version foot, l'ancien capitaine de l'équipe de France. Et il se débrouille plutôt bien. Blatter l'a bien compris. Il lui a même fait une promesse. Un jour, ce sera toi. Entendez, le roi. Caution sportive du président, Platini est nommé conseiller technique auprès de Sepp Blatter. Et ses missions sont multiples. Il doit ainsi superviser plusieurs projets, comme le très politique et attendu programme Goal, évoqué il y a quelques instants. Le président et son conseiller se mettent d'accord sur plusieurs points, notamment la question du salaire. Les deux hommes s'accordent sur un montant d'1 million de francs suisses par an. Mais il y a un problème. Ça dépasse largement le plafond de 300 000 francs perçu par le secrétaire général, numéro 2 officiel de la FIFA. Blatter propose alors de régler la différence sur facture plus tard, quand les comptes de la fédération seront assainis. Un accord tout à fait légal, qui ne contrevient ni aux règles de la FIFA, ni à la loi suisse. Les deux hommes ont un accord verbal, et se tapent dans la main. À son poste, Michel Platini découvre un nouvel univers et se familiarise avec la géopolitique du sport. Il apprivoise aussi cette organisation qui regroupe 209 pays plus que l'ONU et qui génère des milliards de dollars de revenus. Dans l'ombre du président Blatter, l'ancien footballeur se forge une réputation. Il cultive aussi ses relations et ses ambitions. En 2002, et alors qu'une nouvelle élection se profile à la FIFA, il est l'un des principaux soutiens d'un Sepp Blatter en difficulté, suite à un scandale de corruption qui agite l'institution et dont se servent ses opposants pour tenter de le faire tomber.
Joseph Blatter, le patron du football mondial, aurait été un coutumier du détournement de fonds, un coup de poignard dans le dos, car cette plainte est déposée par les propres lieutenants du président. Et pour moi, les deux derniers points mentionnés dans mon rapport sont les plus importants, car ils montrent qu'il pourrait y avoir de la corruption au sein de l'organisation. Blatter est accusé d'avoir utilisé une partie de cet argent à des fins personnelles et d'avoir versé des pots de vin à certains membres de la fédération.
On essaye par une action concertée de démolir l'image du président.
Une polémique grave qui intervient à l'approche de la réélection du président de la FIFA fin mai.
Et Blatter est réélu. Le 29 mai 2002, lors du congrès de la FIFA à Séoul, il conserve son titre devant l'influent président de la Confédération africaine, Issa Hayatou. Michel Platini, qui a largement soutenu le président sortant, annonce pourtant la fin de leur collaboration. Officiellement, le fidèle conseiller trace sa propre route au sein de l'UEFA, la Confédération européenne de football, où il vient d'être élu dans les instances dirigeantes. Officieusement, l'ancien numéro 10 des Bleus se lasse aussi de ce président Blatter, omnipotent et manipulateur. À l'UEFA, il s'impose très vite comme une figure importante du football européen. Dynamique et réformateur, l'image de l'ancien footballeur tranche avec les caciques en costume-cravate. En septembre 2002, il devient l'un des représentants de l'UEFA au sein du tout-puissant comité exécutif de la FIFA, le COMEX pour les initiés, le saint des saints du football mondial. Une sorte de gouvernement où sont prises toutes les décisions importantes, comme la gestion des finances de cette organisation milliardaire à but non lucratif, mais oui, ou le choix du pays hôte de la Coupe du Monde, un enjeu qui dépasse largement celui du football. Un huis clos où siège le président de la FIFA et 23 membres issus des 6 confédérations, dont désormais Michel Platini. Voilà pour la Curie version FIFA. Prochain objectif de Platini, la présidence de l'UEFA. La prochaine élection doit avoir lieu en janvier 2007. Fair play, il décide d'avertir Lennart Johansson, président sortant, de ses ambitions. Clean. Déjà battu par le duo Blatter-Platini en 1998, Johansson ne croit pas un instant la victoire de Platini. Trop kitsch, a-t-il peut-être pensé. Michel Platini a retenu la leçon, lui, de la campagne victorieuse de son ancien mentor. Alors que Johansson peut compter sur le soutien des grandes fédérations de l'Europe de l'Ouest et plaide pour le statu quo, lui fait campagne auprès des dizaines de petites fédérations issues notamment de l'ancien bloc soviétique. Sa promesse est double. L'ouverture et la transparence. Glasnost et perestroïka, en quelque sorte. Bon, on ironise. N'empêche que ce travail de fond finit par payer. Le 26 janvier 2007, Michel Platini est élu président de l'UEFA lors du 31e congrès de l'organisation à Düsseldorf, en Allemagne.
France Inter.
Il a porté le numéro 10, il prend aujourd'hui le numéro 6. En clair, Michel Platini voulait devenir le 6e président de l'UEFA, l'Union Européenne de Football. Platoche a donc brigué la place. À Düsseldorf, il s'est mis en concurrence avec le président sortant, le Suédois Lennart Johansson. Et une fois de plus, il a gagné le match. Écoutez les premiers mots du nouveau président de l'UEFA.
Je me présente aujourd'hui devant vous avec respect, modestie, mais détermination. Le football, mesdames et messieurs, est un jeu avant d'être un produit. Le football est un sport avant d'être un marché. Et le football est un spectacle avant d'être un business.
Ah bon ? Dès le début de son mandat, Platini engage des réformes importantes. S'il œuvre pour une grande ouverture et une transparence accrue de l'organisation, c'est surtout la réforme pour favoriser l'accès des petits clubs aux grandes compétitions européennes qui fait date. Entouré de proches, dont le Suisse Gianni Infantino, nommé secrétaire général de l'UEFA en 2009, Platini voit sa cote de popularité monter au sein des instances du football mondial. Certains lui prêtent même des ambitions pour l'élection à la FIFA qui se profile en 2011. Il n'en est rien. Pour l'heure, Platini est pleinement concentré sur son travail à la tête de l'UEFA et il vise un second mandat. Extrêmement populaire, il sait déjà qu'il n'aura aucun concurrent. Et surtout, il a passé un pacte avec Sepp Blatter. Il a promis de le soutenir pour l'élection de 2011 et le président de la FIFA, lui, a juré de se retirer à la fin de ce mandat, ouvrant à Platini la voie royale pour 2015. Même si la relation entre les deux hommes n'est plus qu'elle était, l'un et l'autre affirment vouloir honorer leurs promesses. C'est d'ailleurs en ce sens que les 2 millions de francs dus à Michel Platini pour son travail de conseiller entre 1998 et 2002 doivent lui être versés au mois de juin 2011. Un document signé quelques mois plus tôt de la main du président valide la demande. Mais la relation entre les deux est mise à mal par un événement qui va faire trembler la planète football.
L'ouverture de cette enveloppe a fait basculer la Coupe du Monde dans une autre dimension. À Doha, capitale du Qatar, la foule s'est levée et avec elle la fierté du Moyen-Orient. À peine plus grand que la Corse, le Qatar sera le plus petit pays à organiser un mondial. 1 700 000 habitants seulement, mais une puissance financière démesurée, critère essentiel pour la FIFA. Le petit Qatar a réussi en 2006 l'organisation des Jeux Asiatiques. En coiffant les États-Unis, l'Australie et le Japon, le voici à la table des grands, au début d'une nouvelle ère.
L'attribution du Mondial 2022 au Qatar plonge la FIFA et les 24 membres de son comité exécutif dans la tourmente. Mais enfin, comment un pays sans tradition footballistique, sans infrastructure existante et où les températures dépassent régulièrement les 50 degrés en été, a-t-il pu remporter devant les candidatures bien plus solides l'organisation de la Coupe du Monde ? C'est la question que beaucoup se posent, notamment la délégation américaine, donnée largement favorite. Très vite, c'est l'opacité du processus de vote qui est pointée du doigt. Les tout-puissants membres du COMEX de la FIFA ont-ils été achetés par l'hyperactive délégation qatari, comme le suggèrent certains ? Comment penser autrement quand toutes les études préalablement commandées par la FIFA pointent du doigt les risques liés à l'attribution de la compétition au Qatar ? C'est le début du Qatargate, une affaire explosive qui va durablement ébranler la FIFA et que nous vous avons déjà raconté dans Affaires Sensibles. Et ce 2 décembre 2010 marque aussi le point de rupture entre Sepp Blatter et Michel Platini. Car à l'inverse de la plupart des membres du COMEX, le président de l'UEFA ne cache pas son choix. Dans les jours qui suivent, Michel Platini confirme avoir voté pour la candidature qatari. Oui, le dossier américain était plus solide, mais pour lui, il était nécessaire et important d'ouvrir la compétition à une nouvelle région du monde.
Si je décide de porter ma voix pour le Qatar, c'est parce que cela correspond à ce que je ressens au plus profond de moi-même, à mes plus intimes convictions. Oh, bien sûr, un ticket Angleterre 2018 et USA 2022 avait fière allure. Mais quel choix convenu, conformiste, pépère. Le ballon doit briller pour tout le monde. Depuis la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis, le Mondial a suivi un élégant tour du monde. L'Europe de l'Ouest avec la France et l'Allemagne. l'Asie avec le Japon et la Corée du Sud, l'Afrique avec l'Afrique du Sud, l'Europe de l'Est avec la Russie en 2018, le Moyen-Orient en 2022 avec le Qatar. On ne joue pas au football uniquement à Paris, Londres ou Milan. Cessons cet ethnocentrisme coupable.
Une position que lui reproche Sepp Blatter, qui avait anticipé les risques d'un tel choix. Et le président de la FIFA ne s'est pas trompé. L'institution subit de plein fouet une avalanche d'accusations. Beaucoup critiquent le secret qui entoure les choix du COMEX et l'omnipotence de ses membres qui agissent sans aucun contrôle. Un système durement critiqué, notamment par les États-Unis, où l'échec de la candidature ne passe toujours pas, à tel point que le FBI est invité à lancer une enquête, on y reviendra. En plus de mettre l'institution en difficulté, ce nouveau scandale fragilise sérieusement Sepp Blatter. Le Suisse de 74 ans doit remettre son mandat en jeu quelques mois plus tard. Même s'il tient la FIFA d'une main de fer, sa candidature est cette fois sérieusement menacée par celle de son rival, le président de la Confédération Asiatique de Football, le Qatari Mohamed Bin Hammam. Beaucoup espèrent voir tomber Blatter en place depuis 13 ans. Un espoir vite évaporé quand le challenger est pris en flagrant délit de tentative d'achat de voix dans une suite d'un hôtel de Trinidad et Tobago. Suspendu par la FIFA, Mohamed Bin Hammam retire sa candidature 3 jours avant le vote. Sepp Blatter est réélu pour un 4e mandat, celui du renouveau, promet-il. Platini, lui, s'est abstenu, mais il prévient son ancien allié. S'il se présente dans 4 ans, il ne faudra pas compter sur lui. La relation entre les deux hommes devient exécrable. Les balles perdues fusent de tous les côtés. La guerre est déclarée. Platini critique publiquement une fédération version Blatter qui a perdu le sens des réalités, quand le président de la FIFA, lui, met en doute la probité de Michel Platini. Lors d'une interview, il suggère que le vote de l'ancien joueur en faveur du Qatar puisse avoir été acheté. La preuve, selon lui, un déjeuner organisé à l'Élysée quelques jours avant le vote, en présence de l'émir du Qatar. Une affaire déjà évoquée par la presse, et sur laquelle Michel Platini s'exprime quelques mois plus tard, dans l'émission Complément d'enquête sur France 2.
Au moment où je rentre dans la salle, il y a le président de la République, il y a Sophie Dion, il y a M. Guéant, je crois, c'est ça. Et hop, j'ai vu le prince du Qatar, le fils de l'émir, et le premier ministre du Qatar. Donc j'étais pas au courant que j'avais à avoir à déjeuner avec eux. Et c'est pour ça que je l'ai raconté, parce que ça se serait su, je préfère le dire, en disant, attendez, je suis allé à un déjeuner, il y avait les gens du Qatar, donc je savais que ça allait me retomber sur la tête. Mais j'y suis pour rien. J'ai cru comprendre que la France serait contente si je votais pour le Qatar. J'ai cru le comprendre. Mais personne ne m'a jamais rien demandé.
Nicolas Sarkozy ne vous a jamais demandé de voter pour le Qatar?
Non. Non.
Il vous l'a fait comprendre?
Là, il a fait comprendre. Il n'y avait pas le président d'Australie à table.
Est-ce qu'avant ce rendez-vous, votre choix était déjà fait?
Peut-être, c'est pour ça qu'il a vendu ma voix au Qatar, peut-être. Peut-être qu'il savait que j'allais voter pour le Qatar, oui. Et donc peut-être qu'il a vendu, lui, au nom de la France, ma voix au Qatar pour avoir plein de choses.
Pour Platini, c'en est trop. En 2014, il demande à son ancien allié de renoncer à la prochaine élection qui doit avoir lieu dans un an. Blatter, qui avait promis que 2011 serait la dernière, revient sur sa parole. Mais alors qu'il semble avoir un boulevard devant lui, Platini refuse de se lancer dans la bataille. « Oui, je veux y aller, mais pas comme ça », dit-il. Il décide finalement d'appuyer la candidature du Jordanien Ali bin Hussein, l'un des vice-présidents de la FIFA et candidat déclaré. Mais le 27 mai 2015, 2 jours avant le vote, le monde se réveille avec cette information.
Il est 8h06 sur Inter, c'est l'information de la nuit et même de ce matin, puisqu'il y a des réactions qui nous parviennent de hauts responsables de la FIFA interpellés dans un luxueux hôtel de Zurich.
Oui, 6 personnalités au moins de la Fédération internationale de football arrêtées à l'aube par la police suisse. Alors que la FIFA, vous le savez, tient vendredi son congrès annuel où le président Sepp Blatter briguera un 5e mandat. Alors ces hauts responsables sont soupçonnés par la justice américaine de corruption. On évoque notamment les conditions d'attribution de plusieurs éditions de la Coupe du Monde, des contrats de marketing, des droits de retransmission télé. La FIFA cherche à clarifier la situation et ne fera pas de commentaires sur ces arrestations. C'est ce qu'affirme à l'instant le porte-parole de la fédération.
5 ans après l'attribution du Mondial 2022 au Qatar, la réplique américaine est enfin tombée. Le FBI, qui enquête depuis plusieurs années maintenant sur ce qu'il qualifie de culture enracinée de la corruption institutionnelle, vient ébranler une nouvelle fois la FIFA. Si 9 hauts responsables, dont plusieurs membres du COMEX, sont arrêtés, le président, lui, n'est pas menacé. Bien décidé à conserver son poste, Blatter repousse immédiatement l'idée de renoncer. Alors, Michel Platini déblatère. Trop c'est trop, dit-il devant les journalistes. Malgré ce scandale, malgré l'appui de Platini et du foot européen en faveur de Hussein, l'emprise de Blatter sur l'institution est décidément trop forte. Le 29 mai 2015, il est réélu pour un 5e mandat. Un baroud d'honneur, en vérité, pour un homme qui s'accroche au pouvoir. Mais face à la pression, Sepp Blatter finit par plier. 4 jours seulement après sa réélection, il annonce sa démission. Mais attention, c'est selon ses conditions. Une démission qui doit avoir lieu dans 1 an, lors d'un congrès extraordinaire où son successeur sera élu. Pour Michel Platini, cette fois, c'est la bonne. Et plus question de tergiverser, il doit saisir sa chance. Dans le courant de l'été, le très populaire président de l'UEFA annonce sa candidature. À ses proches, Sepp Blatter dit « Il faut tuer Michel ». Et ça tombe bien, il a en main un dossier compromettant. La facture des 2 millions de francs versés en 2011. Le versement, on l'a dit, a beau être légitime. Blatter sait qu'un virement effectué 9 ans après la prestation, qui plus est, sans trace d'un contrat écrit, est une raison suffisante pour inquiéter Platini. Durant l'été 2015, Blatter et ses proches font discrètement remonter le document au sein des instances de la FIFA. Une manœuvre périlleuse pour le président sur le départ, qui va subir un violent retour de flamme quand le 8 octobre 2015, la commission d'éthique de la FIFA s'empare de cette affaire.
France Inter. Que reste-t-il de la FIFA ce matin ? Son président, suspendu. Ses vice-présidents, un banni à vie, 2 suspendus, 3 soupçonnés de corruption. Et celui qui devait incarner le renouveau du football mondial, Michel Platini, est désormais lui aussi au cœur du scandale. La commission d'éthique a en effet décidé de le suspendre de ses fonctions pour une durée de 90 jours, comme Sepp Blatter. Au cœur de l'affaire, le versement par l'UEFA d'€1,8 million sur le compte de Michel Platini pour un travail qu'il peine à justifié devant la justice suisse. Une affaire qui pourrait donc sonner le glas de ses ambitions.
La commission d'éthique de la FIFA s'interroge. Ce paiement est-il une contrepartie versée en échange d'un soutien de Platini au président de la FIFA en 2011 ? En décembre 2015, cette même commission prononce contre lui une interdiction d'exercer toute activité liée au football pour une durée de 8 ans. Et peu importe la réduction à 6 ans qui intervient quelques semaines plus tard, le mal est fait. Cette sanction, qui se veut exemplaire, met un coup d'arrêt définitif aux ambitions de Michel Platini, déchu de son poste de président de l'UEFA. Alors il s'interroge, forcément. Est-il victime de son ancien mentor ? Et qu'en est-il de son ancien bras droit, Gianni Infantino ? C'est simple. L'ancien homme de confiance a profité de la suspension de Platini pour se présenter à sa place, à la présidence de la FIFA. Et le Suisse d'origine italienne l'emporte en février 2016, mettant fin aux 17 années de règne de Sepp Blatter. Le volet judiciaire de cette affaire des 2 millions de francs suisses, lui, dure des années. Relaxé en première instance en 2022, Michel Platini et Sepp Blatter font face à un second procès suite à l'appel du ministère public suisse. Le 25 mars 2025, les deux hommes sont définitivement blanchis, la justice helvète estimant légal le versement des 2 millions d'arriérés de salaire. Une affaire qui n'en était finalement pas une, mais qui a mis Sepp Blatter à la retraite et qui a définitivement écarté Michel Platini qui rêvait de prendre sa place.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'affaire Platini-Blatter. Notre invité, Jean-Philippe Leclerc. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste, vous êtes un fin connaisseur de la carrière et même de la vie de Michel Platini, dont vous avez écrit une biographie, d'ailleurs augmentée, hein. Il y a presque 2 biographies. L'affaire des 2 millions de francs, déjà. Sait-on aujourd'hui qui on est à l'origine ? Est-ce vraiment Blatter qui a fait fuiter le document et qui a subi un retour de flamme ou... a-t-elle émergé par hasard, cette affaire ? Qu'est-ce qu'on sait de l'origine de cela ?
Alors, les deux procès dont vous avez parlé n'ont pas permis de l'établir avec certitude. En tout cas, le procureur de l'époque, Olivier Thormann, a raconté que lors d'une perquisition le 27 mai 2015, donc dans les locaux de la FIFA, le directeur financier de la FIFA, Marcus Kattner, avait attiré son attention sur ce fameux paiement dit déloyal à l'époque. Mais Marcus Kattner a démenti. Et le clan Platini, en fait, soupçonne un autre dirigeant de la FIFA, qui était Marco Williger, qui était le directeur juridique. Et le clan Platini est persuadé que c'est Williger qui avait attiré l'attention des enquêteurs sur le versement, donc téléguidé par Blatter. Téléguidé par Blatter, pour nuire à Platini.
D'accord. Alors, dans notre récit, on a parlé aussi de Gianni Infantino, l'actuel président de la FIFA et ancien secrétaire général de l'UEFA. Au cours de l'affaire, Platini a plusieurs fois évoqué la possibilité que son ancien bras droit ait agi dans l'ombre pour le faire tomber. Est-ce qu'il y a des éléments probants pour affirmer ça ?
Alors là aussi, il y a eu une enquête, une procédure pendant 3 ans qui n'a pas abouti, avec des très forts soupçons, puisque cette procédure a quand même établi qu'il y avait eu 4 réunions secrètes entre Gianni Infantino et des membres du parquet suisse, helvétique, de très haut niveau, puisqu'il y avait Markus Löber, par exemple, qui était le patron du parquet suisse à l'époque, ou Rino Arnold, qui était le procureur du Haut-Valais, qui est la région d'origine de Gianni Infantino, et un ami quasiment d'enfance de Gianni Infantino. Et il y a eu une réunion en particulier avant même cette histoire de paiement déloyal. Donc là, le clan Platini, Michel Platini, soupçonne le fait qu'effectivement, Gianni Infantino avait toujours un coup d'avance, parce qu'il avait des infos qui lui étaient remontées par les procureurs suisses, mais l'enquête qui a eu lieu donc en Suisse n'a pas permis, a établi le fait qu'il y avait bien eu 4 réunions secrètes, mais comme elles sont secrètes, on ne sait pas ce qu'il a dit, donc il n'y avait pas de preuves pour aller plus loin.
Par définition, Infantino et Blatter, blanc bonnet et bonnet blanc.
Alors ce qui est très drôle, c'est qu'ils sont nés à exactement 9 km de distance, dans 2 petits villages du Haut-Valais, un peu comme vous savez, les marathoniens kényans qui viennent tous du même coin du Kenya, là c'est les dirigeants de la FIFA. En revanche, on peut pas dire que Infantino soit l'héritier de Blatter, puisqu'ils se haïssent cordialement. Donc ils ont des points communs, parce que tous deux ont été des hauts fonctionnaires du football, avec des pas forcément très charismatiques, pas de passé de joueur, etc. Mais ils ont gravi les échelons à un. Et puis, ils ont su profiter de circonstances favorables, d'un très grand sens politique, pour finalement parvenir au sommet.
Et selon vous, Michel Platini, a-t-il été négligent concernant cette facture de 2 millions de francs suisses ? En fait, avait-il les épaules dans ce panier de crabes très politique, lui le footballeur ?
Alors, ce qui s'est passé, c'est pourquoi il réclame cet argent si longtemps après. Il le réclame un peu sur un coup de sang, parce que l'un de ses grands ennemis à la FIFA, qui s'appelle Jérôme Champagne, vient d'être licencié. Il a touché un énorme pactole. Donc, le réflexe de Platini, c'est de dire, s'ils sont capables de donner autant d'argent à Champagne, ils vont me rembourser mes 2 millions. Donc, c'est comme ça qu'en fait naît l'histoire. En ce sens-là, il a sûrement été un peu naïf, parce qu'effectivement, c'était donner le bâton pour se faire battre. Mais si Blatter a vraiment attiré l'attention des enquêteurs sur cette affaire, lui aussi a été très naïf, parce qu'il y a eu un retour de flamme terrible sur Blatter lui-même.
Alors, il y a quelque chose qui interpelle, on a entendu Michel Platini, après avoir été blanchi, qui dit, voilà, c'est un nouveau départ, mais pour où peut-il l'espérer revenir, et où ?
Je pense qu'il l'espère toujours revenir, je pense qu'il s'ennuie un peu, là, maintenant, mais le problème, c'est qu'il voudrait revenir sans à nouveau livrer bataille. Vu tout ce qui lui est arrivé, il est un peu un grand brûlé, qui est un peu peur de revenir vers le feu sacré, et donc, en fait, je pense que dans ses rêves, on lui proposerait à nouveau un grand poste, suite à un nouveau scandale à la FIFA, par exemple, ou à l'UEFA, on lui dirait, voilà, tu es l'homme du recours, on a besoin de toi. Mais je suis pas sûr qu'il ait envie de se relancer vraiment dans une bataille et de prendre à nouveau des coups, même si, effectivement, je pense qu'il a pas complètement renoncer à revenir dans son sport et dans ce qu'il aime faire, et il pense toujours qu'il peut avoir une influence sur un foot qui est un peu dérivé depuis qu'il est plus à la tête des instances.
Oui, il n'est pas si vieux. Est-ce qu'on pourrait imaginer un retour sur le terrain, genre sélectionneur ?
Mais là, c'est pareil. Par exemple, les journaux italiens ont évoqué son nom pour la Juventus Turin pour la saison prochaine.
Ah, ce serait classe.
Je sais que ça vous intéresse.
Oh là là. S'il reportait, vous imaginez, ce maillot qu'il a porté.
Mais là aussi, il faudrait à nouveau qu'il se remette dans le bain, qu'il ait la pression toutes les semaines, la pression du résultat, qu'il dépende de joueurs qui seraient moins talentueux que lui. Donc, tout ça lui fait un peu à la fois doit l'exciter, mais lui fait un peu peur aussi.
Mais ça tient cette info, il pourrait être sélectionneur de la Juve, ou c'est juste une rumeur.
C'est une info qui a été sortie par des journaux italiens plutôt sérieux. Maintenant, elle n'a pas été confirmée. À ma connaissance, la proposition ne lui a pas encore été faite.
Bon.
France Inter.
Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Jean-Philippe Leclerc, quel est le bilan qu'on peut tirer de la présidence, qu'on ne va pas parler d'affaires de gros sous tout le temps, la présidence de Platini à l'UEFA, président de l'UEFA?
Ça a été un président fort de l'UEFA, beaucoup plus fort que son successeur Alexandre Seferin, et on peut mettre à son
le
crédit...
Il est slovène.
On peut mettre à son crédit un certain nombre de réformes. C'est lui qui a quasiment inventé, pas tout seul, mais qui a inventé le fair play financier, dont on parle encore... Aujourd'hui, c'est lui, comme vous l'avez rappelé, qui a un peu plus ouvert la Ligue des champions aux champions des petits pays. C'est lui qui avait mis au pas aussi les grands clubs européens, qui avaient déjà des volontés de sécession, de Super League, et du temps de la présidence de Platini, on ne les a plus entendus. Ou par exemple, la France va disputer là, en juin, la Ligue des Nations, le tournoi final de la Ligue des Nations. C'est une compétition qui a aussi été inventée par Michel Platini.
Donc, un bon bilan à l'UEFA, on l'a dit. Il avait donc vraiment un boulevard devant lui pour la FIFA, cette affaire des 2 millions. Là. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'était un boulevard complet, puisque à partir du moment où il a déclaré sa candidature, les continents européens, sud-américains, l'Amérique centrale et l'Asie s'étaient déjà déclarés pour lui. Il n'y avait encore que l'Afrique et l'Océanie qui ne s'étaient pas prononcés pour Platini. Donc en gros, on pense qu'il pouvait déjà compter sur 144 voix, alors que Blatter avait été réélu avec 133. Donc c'était les Champs-Élysées.
Oui. Alors, la FIFA, comme le Comité international d'organisation des Jeux Olympiques, a mauvaise réputation. On dit que c'est non seulement un panier de crabes, mais qu'il y a corruption, qu'il y a tellement de fric qui est manipulé. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité ?
Alors, il y a énormément d'argent. Mais cet argent, il sert aussi parfois à faire le bien. C'est-à-dire que cet argent-là, il est redistribué aux fédérations nationales de tous les pays membres sur tous les continents. Et donc, il y a certains pays qui vivent en gros grâce à l'argent de la FIFA, où il y a des programmes de formation au fair play, contre l'homophobie, pour l'arbitrage, qui sont financés par la FIFA. Je crois que la FIFA a dû distribuer encore 2,3 milliards de dollars, ce qui est quand même énorme à toutes ces fédérations. Après, tout cet argent suscite des convoitises individuelles, et effectivement, l'histoire de la FIFA, en particulier avant Sepp Blatter, quand João Havelange, le Brésilien, a été président, c'est une histoire de soupçons, d'accusations, de preuves de corruption, de détournement, de blanchiment, enfin oui, c'est une histoire sombre.
Qu'est-ce qu'on peut dire, alors, pour le coup, de la présidence, pour l'instant, de Gianni Infantino? Je rappelle, il est président de la FIFA.
Alors, il était censé réformer la FIFA, il était censé être un chevalier blanc, et en fait, il ne l'a pas été. Je dirais qu'il a amené encore plus de matchs et encore plus d'argent pour les fédérations, pour lui aussi, parce qu'il a un salaire très confortable, qu'il a bien augmenté. Et il était censé, en tout cas, démocratiser un peu plus la FIFA, et ça, il ne l'a pas du tout fait, parce que c'est encore plus une autarcie, pour ne pas dire une dictature, que du temps de Sepp Blatter, puisque... Au moins du temps de Sepp Blatter et de João Havelange, il y avait un poste clé qui était celui de secrétaire général. On pourrait dire que c'était le premier ministre du président de la FIFA. Et ce poste-là, il a été complètement dénaturé. Les prérogatives du secrétaire général ont été une à une élimées. Et aujourd'hui, il y a un seul roi tout puissant, c'est Gianni Infantino, sans aucun contre-pouvoir.
Tout à l'heure, parlant de Havelange, son prénom s'écrit J-O-A-O. Ben, ça prononce En, c'est pour ça que j'ai dit Jean. Havelange, bon, voilà.
Comme
Sram Polo.
J'ai corrigé. Jean Havelange.
Alors, vous dites de plus en plus de matchs. Certes, notamment une Coupe du Monde des clubs. Est-ce que c'est pertinent, sachant qu'il y a de plus en plus de blessures, les joueurs sont de plus en plus pressurisés, font de plus en plus de matchs, et la Ligue des Nations, ça c'est l'UEFA, mais bon. Est-ce que c'est une tendance qui va finir par causer des dégâts, de plus en plus de matchs pour de plus en plus d'argent?
Non, mais c'est totalement hallucinant. Imaginez un joueur du PSG, donc il aura joué la finale de la Coupe de France donc samedi dernier, après le championnat. Il va jouer la finale de la Ligue des Champions samedi. Ensuite, il va être embarqué dans la Ligue des Nations pour les joueurs français. Et ensuite, il va disputer une Coupe du Monde des clubs à 32 équipes aux États-Unis.
Pendant l'été, donc pas de vacances.
Alors que traditionnellement, la saison sans Euro et sans Coupe du Monde, c'était une saison, en tout cas l'été, où les footballeurs se refaisaient un peu de jus et se reposaient un peu plus. Donc c'est complètement dément. La seule justification, c'est effectivement l'argent et aussi les batailles de pouvoir, l'ego. Parce que le fait d'organiser cette Coupe du Monde des clubs, c'est une façon pour Gianni Infantino de prendre encore plus le contrôle du football mondial et d'avoir il espère avoir une compétition de clubs qui soit la rivale de la Ligue des Champions européenne, puisqu'il y a toujours eu la grande rivalité entre la FIFA, la maison mère, et puis l'UEFA, qui est la confédération la plus riche et qui, jusque-là, a la compétition la plus rémunératrice et la plus importante au niveau des clubs, qui est la Ligue des Champions.
Notamment, la Ligue des Champions est suivie dans le monde entier. J'avais discuté avec des Uruguayens en Uruguay qui me disaient, en Amérique du Sud, on suit la Ligue des Champions comme si on était européen.
C'est la NBA du football. Et donc, justement, avec cette Coupe du Monde des clubs, Infantino essaie de créer sa propre NBA à lui. Donc, voilà. Donc, c'est des histoires d'argent et des histoires d'ego.
Alors, je remarque que depuis quelques années, les Coupes du Monde sont souvent confiées à plusieurs pays. D'ailleurs, la prochaine Coupe du Monde sera confiée à 3 pays, Canada, États-Unis, Mexique, c'est bien ça ?
Exactement.
Ça, c'est une tendance lourde, et pourquoi, finalement ?
Sauf quand c'est le Qatar ou l'Arabie Saoudite.
Exactement.
Là, il y a un seul pays. donc, il y a à la fois des raisons financières d'organisation, puisque maintenant, les Coupes du Monde sont devenues des événements monstrueux à organiser, puisque quand vous avez 32 pays comme ça, avec des matchs dans tout un... Enfin, donc, du coup, on sépare the bill en anglais, on sépare l'addition en 3 plutôt qu'en 1. Après, ça a aussi des visées électoralistes. C'est-à-dire que plus vous avez de pays qui participent et plus vous avez de pays qui organisent, plus, effectivement, vous avez de pays qui ont envie de voter pour vous, Gianni Infantino, quand vous allez vous représentez. Donc tout cela se mélange et donc on aura cette Coupe du Monde en 2030 sur 3 continents, donc Europe, Afrique, Amérique du Sud et dans 6 pays différents. Donc là, on est vraiment au top du top de l'usine à gaz.
Est-ce qu'il y a des pays plus puissants que d'autres au sein de la FIFA ? Alors je pense au Brésil, à l'Allemagne, l'Italie, la France aussi aujourd'hui, des pays qui pèsent plus que les autres.
Alors, il y a des pays qui semblent plus pesés que les autres, parce qu'effectivement, ils ont gagné des Coupes du Monde, mais quand il faut voter, et vous l'avez bien rappelé dans votre récit,
le même poids.
Ça a été toute la stratégie et de Blatter et ensuite de Platini d'aller plutôt vers les, entre guillemets, petits pays.
Mais en termes d'influence, je veux dire, bon, le vote de Cuba vaut autant que le vote de la France, d'accord, juridiquement, mais en termes d'influence...
On peut constater que la Suisse a une certaine influence, puisqu'elle est arrivée à placer les 2 derniers pays. Après, oui, les grands pays européens, Angleterre, Allemagne, France, Italie, Espagne, les grands pays d'Amérique du Sud, Brésil, Argentine, sont censés avoir plus d'influence. Mais c'est un Slovène qui est patron de l'UEFA. Donc, de temps en temps, en fait, le pouvoir et la rivalité s'annule au profit d'un plus petit pays ou d'un plus petit candidat, parce que les gros arrivent à faire consensus sur un plus petit pour ne pas s'entre-déchirer.
Merci Jean-Philippe Leclerc. À bientôt. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Platini-Blatter, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Guillaume Roux.